Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel, tous les jours à la radio tôt le matin de 6h à 6h30 ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou mieux, l'abonnement au podcast du réveil culturel disponible entre autres sur l'application Radio France. Tous les jeudis c'est l'actualité musicale mais en ce jeudi 26 septembre, on va parler d'un disque qui sort demain et qui nous vient de loin puisqu'il s'agit d'un album inédit de John Coltrane, Blue World. Tel est le titre de ce disque de 37 minutes de bonheur qui sort dans le label légendaire de Coltrane. Pour nous en parler, il nous fallait au moins Francis Marmande, spécialiste de jazz, journaliste au Monde, écrivain et musicien par ailleurs. Bonjour Francis Marmande.
Bonjour Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Laïma, John Coltrane, c'est extrait de cet album inédit qui sort demain, Blue World, et qui sera disponible en CD, en vinyle et sur les plateformes de streaming. Est-ce que ce sont les fonds de tiroir de la maison de disques de John Coltrane et auquel cas, moi j'ai rien contre les fonds de tiroir quand il s'agit de John Coltrane, Francis Marmande.
Je vous comprends, mais il ne peut pas y avoir de fonds de tiroir. Quoi qu'on trouve, ce sera toujours où un inédit et donc une rareté à saisir sur place, ou un objet volant mal identifié, comme celui-ci, qui avait été enregistré à des fins de bande sonore pour un film.
Un film québécois, ouais.
Un film québécois.
Que je n'ai pas vu, mais que vous avez vu, Francis Marmande.
Bien sûr, parce que Le chat dans le sac, en 1966, le film date de 64. Donc j'avais 20 ans et oui, c'est le plus bel âge de la vie. Mais tout ce qui sortait avait des airs d'exception. Je n'étais pas farouchement snob, encore que. Mais enfin, ça m'intéressait, oui, bien sûr. Non, j'avais pas le souvenir que la musique fût de Coltrane. Et je ne sais pas quelle place elle prend exactement. Je me souviens bien des ambiances critique de groupe, de tout ce qui naviguait autour de son idée de nouvelle vague en cinéma québécois, de sa proximité déclarée avec Bertolucci.
Alors, on n'a pas vu le film de Gilles Grou, puisque c'est le nom de ce cinéaste québécois, qui pour son film Le chat dans le sac avait demandé à Coltrane de faire la musique. Finalement, il n'y a eu que 10 minutes de musique de Coltrane dans le film, et tout le reste, sort dans ce disque Blue World. Que penser de ce disque, sachant qu'il a été enregistré en 1964, soit 3 ans avant la mort de John Coltrane, mais les dernières années de John Coltrane étaient des années absolument fabuleuses, parce que là, il expérimentait tout. Même si, dans ce disque, il retrouve ses mêmes musiciens, c'est le même quartet,
Francis Marc. C'est le quartet dit historique, enfin le quartet qui a mis un tout petit peu de temps à se fixer, mais c'est Elvin Jones, extraordinaire dans cette interprétation de Naïma, comme tout au long de la carrière qu'il a faite avec Coltrane. McCoy Tyner, qui est toujours actif, remarquablement, au piano. Et Jimmy Garrison, qui a succédé à quelques autres bassistes. J'ai lu récemment que Reggie Workman, que je tiens en estime supérieur comme contrebassiste, avait abandonné la partie, mais avec beaucoup de fair play. Il était jeune, sans doute, mais il dit ceci, que c'était d'une telle intensité de jouer la musique de Coltrane que lui, tout jeune, il n'y arrivait pas. Et quand on entend Naïma avec son tempo très lent, on est très étonné de cela, et c'est Reggie Workman qui parle. J'ai été troublé. L'autre chose, c'est que Elvin Jones, qui était un personnage magnifique, drôle, exubérant, puis quel batteur, quel musicien, m'a dit, c'était dans un petit hôtel du 9e arrondissement, dans le lobby où je l'interviewais un an avant sa mort, en 2003, et il m'a dit, mais chaque fois qu'on jouait, on jouait quelque chose de nouveau. Et vous savez, même la spiritualité n'empêche pas le sens de l'humour. On s'amusait beaucoup. Il m'est revenu aussi ceci de Elvin Jones. Il racontait qu'en 1962, il y avait un producteur de Baden-Baden, richissime, qui avait engagé le quartet. Et il payait très très bien. Mais il n'avait qu'une exigence, c'était qu'il fallait jouer tous les matins dans le studio à partir de 7h. Et Elvin était explosé de rire en racontant ça, en disant, bon, il y avait ceux qui n'étaient pas couchés, il y avait ceux qui avaient très peu dormi. Et à 7h du matin, qu'est-ce qu'on faisait? On jouait le My Favorite Things pendant 50 minutes en boucle pour essayer de se repérer les uns les autres, pour s'entendre, pour... Je le dis parce que la promotion de ce magnifique enregistrement, hein, Blue World, dit que pour une fois exceptionnelle, Coltrane reprend ce qu'il n'a pratiquement, j'aime beaucoup le pratiquement jamais fait, des thèmes qu'il a déjà joués. Non, c'est que ce soit une musique faite aussi par la répétition, la routine, au sens des tap dancers, c'est une figure de... Enfin voilà, tout le monde connaît ça, ça n'est pas grave. Mais le tout, c'est de jouer à fond chaque fois. Eux, ils le faisaient, oui.
Alors, ce disque, Blue World, c'est le deuxième inédit de John Coltrane qui sort en moins de 2 ans. Alors, la première fois, on s'est dit, bon, c'est le 50e anniversaire de sa disparition, c'est son label, Impulse, qui a dû faire le travail qu'il fallait faire pour rendre hommage à John Coltrane et essayer de trouver quelques inédits pour le faire revivre. Là, en l'occurrence, il y a d'autres inédits qui arrivent. Là, on sait que c'est avec cette musique enregistrée pour un film. Est-ce que John Coltrane aurait été d'accord pour que ces morceaux sortent tels qu'ils sortent aujourd'hui?
Est-ce que John Coltrane aurait permis la sortie du précédent, celui qui était authentiquement inédit? Ça n'est pas sûr. Je pense que c'est pour des raisons personnelles. Naïma a été son premier amour. Alice Coltrane vient ensuite. Les bandes de l'album qui a été publié en 2017 étaient propriété de la première épouse, Naïma. Et ensuite, qu'elle n'ait pas voulu, elle, les publier, ça ne me regarde pas.
What's that?
Like Sonic.
Like Sonic, take one.
Trouve dans cet album de John Coltrane, cet inédit qui sort demain, Blue World, cette belle version de Like Sonny, Francis Marmande.
Oui, on aime à la retrouver parce que elle figure dans d'autres albums de Coltrane, dont l'un est intitulé Like Sonny. Ce thème figure dans un album réalisé avec un merveilleux musicien. J'ai eu la chance de voir au Sweet Basil en 1981, un an avant sa mort, très prématuré, Ray Draper, très maltraité par le dictionnaire du jazz. C'est dommage. C'était un tubiste, c'était un musicien d'orchestre symphonique, c'était un musicien de composition et de recherche. Et il est venu en 69 en France avec Shep. Et il y a dans cet album, qui a inspiré tous les grands joueurs de tuba, qui prennent l'instrument subalterne, comme Howard Johnson ou Marc Secard en France et Michel Godard, il y a dans cet album ce thème Like Sonny, qui peut bien être Sonny. Il est probable qu'il s'agit du pianiste Sonny Clarke. Le tempo très vif et l'esprit de la composition renvoie à un Coltrane qu'on a bien connu aussi, qui est merveilleux. Alors l'idée que ça puisse être suggéré parfois Sonny Rollins n'est pas impossible, n'est pas bête, mais les relations entre Sonny Rollins et John Coltrane ne sont absolument pas ce qu'un vain peuple a pu désirer de rivalité.
Il y avait un respect mutuel, non?
Mais ils se voyaient tout le temps.
Bah oui.
Quand Sonny Rollins jouait Légende sous le pont de Williamsburg pour amplifier son son, tous les musiciens venaient le visiter à la maison en lui disant reviens jouer en ville parce qu'on te réclame. Mais ça va. Et il y avait John Coltrane parmi eux, bien entendu. Et Sonny Rollins a joué lui aussi Like Sonny. Ce qui est émouvant, c'est cette reprise parce qu'on se dit. Cet album, celui qui est inédit pour nous, donc...
Blue World.
Blue World, se situe entre deux albums clés de Coltrane.
Ah oui, deux chefs-d'œuvre.
Et deux chefs-d'œuvre. Crescent.
Et un Love Supreme.
Et un Love Supreme. Ah. Tout ça en quelques mois de 1964. Il n'y a qu'une réalisation sur scène de Love Supreme. C'était à Juan-les-Pins. Le 26 juillet 1965, je ne vous y ai pas vu, cher Toufik.
Qu'est-ce que j'aurais aimé.
Dans les plans de coupe, ce qui est drôle.
Vous y étiez?
Oui.
Quelle chance.
C'est la vie, monsieur. Dans les plans de coupe, ce qui est drôle, c'est une très belle réalisation de Averti.
Francis Marmande, alors, cette inédit de John Coltrane, qui, je le rappelle, sort demain, Blue World, contient donc quelques morceaux classiques, rejoués.
Il y a par exemple dans l'inédit publié, c'est une bonne idée, les deux takes, les deux prises, la prise 1 et la prise 2 de Naïma. C'est intéressant, elles, à quelques secondes près, elles sont différentes. Il y a un léger écart de tempo, il y a un infinitésimal peut-être écart d'état d'esprit. Chaque fois que ce quartet jouait, il se passait autre chose. Je ne peux pas le
Mais
dire.
Alors, en définitive, en quoi Blue World est-il différent des autres albums de John Coltrane? C'est quoi le plus?
Ben, c'est une parenthèse, c'est une ponctuation. Il est entre deux chefs-d'œuvre qui vont le devenir, de la spiritualité ardente et de l'ascension. Ça va être un de ses titres et de quelque chose qui apporte une sorte de verticalité mirobolante, mais stratosphérique aussi. Enfin, il y a de et au milieu, le quartet existe, le quartet joue, le quartet, il le fait venir pour Rudy Van Gelder, donc il est enregistré dans les mêmes conditions, et il prend le répertoire là où il est. On sent que chacun est allé déjà un tout petit peu plus loin. Vous savez, en 1960, Coltrane se fait siffler à l'Olympia par de bons amateurs de jazz, hein, c'est-à-dire des mâles trentagénaires cravatés qui sont très très connaisseurs, mais très connaisseurs. Mais alors lui, il sort tellement de la route ordinaire, comme dirait Chauderlo de Laclos, que il lui envoie des piécettes, ils font des cris de singe. En fait, je ne sais pas de quoi on se plaint dans le foot. En fait, très bien. Et à l'entracte, l'organisateur du concert, Frank Tenno, dit à Coltrane, ils sont très amis. Et John, tu sais, ne te formalise pas. Le public français a toujours un peu de retard. Il aime les habitudes, etc. Et Coltrane, le ténor à la main, et ça, des photos, le regarde fixement. Et au bout d'un moment, il lui dit, écoute, Frank, ne te fatigue pas. Je sais pourquoi il me siffle. Frank Tenno est scié. Il me siffle parce que je ne vais pas encore assez loin.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Un autre extrait de cet inédit de Coltrane, Village Blues. Nous sommes avec Francis Marmande. Est-ce qu'on aura d'autres inédits de Coltrane? Parce qu'on suppose que pour chaque morceau, Coltrane a dû enregistrer plusieurs prises, plusieurs versions, sans compter les versions en public.
Bien sûr. Je ne peux pas lui en vouloir, hein, mais il y a une sorte de public qui est à la fois ligoté par le fétichisme, le marketing, la naïveté, la puérilité, et qui attend du Coltrane à l'infini, à l'infini. Je suis désolé, il faut se rendre à sa mort. Mais, tout de même, je lis des choses étranges. Des musiciens témoignent qu'ils ont vu, je reprends un petit peu notre conversation là où elle en était, ils ont vu dans je ne sais quel club Coltrane et Rollins ensemble. Et sous la plume d'un critique qui a quand même du jugement, de la culture, ils l'ont pas tous, hein, de la sagacité, de pertinence, etc. On lit ce truc ahurissant, peut-être, mais tant qu'on n'aura pas les preuves, mais on est où, au palais de justice ou quoi, par l'enregistrement ou la vidéo, on n'en sera pas convaincu. On s'en fiche. Au Hafnote, en 60 ou 61, pendant 5 semaines, Coltrane joue avec un pianiste qui s'appelle Thelonious Fair Monk. 5 semaines, ça veut dire 3 sets par soir, et croyez-moi, c'est pas des mini-concerts comme aujourd'hui, c'est des sets de patrons de club, donc qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de la nuit. Eh ben, il n'y a rien. C'est une 20aine de minutes, je crois. La musique enregistrée, aujourd'hui, on a perdu cette notion, on duplique la vie. Les selfies avec je ne sais quoi, avec on enregistre tout ce qu'on fait, on filme tout ce qu'on... Et on, ouais, bon. Mais là, non, c'est la trace, c'est là, alors c'est le fantôme de la musique, l'enregistrement c'est remarquablement fait en plus, c'est jamais dans les qualités et les énergies qu'il y a en scène, enfin tout le monde vous le dira.
Mais vous écoutez des disques comme tout le monde, Francis Marmande.
J'écoute la radio, des disques j'en ai énormément écoutés. Énormément. Et oui, ben bien sûr, j'en écoute. Oui, je ne vais pas ici me disqualifier en public. Mais... Et alors, évidemment, vous disant cela, je le regrette immédiatement, parce que dès que je mets soit une archi-nouveauté, soit Bill Evans avec Scott Lafaro et Paul Motion, mais je tombe, évidemment, je tombe. Et c'est plus qu'une trace, c'est plus que le cadavre de la musique, c'est plus qu'un fantôme, je suis d'accord.
Alors, autre événement jazz et surtout autre archive qui a été retrouvée ces derniers jours, c'est bien sûr ce petit film de Miles Davis filmé par Jean-Christophe Averty que Linda a déniché et a mis sur son site. Vous avez vu bien sûr ce moment, ce document, Francis Marmande.
C'est absolument insensé. Ça,
de beauté, vous voulez dire.
De beauté. Oui. On peut le voir facilement sur... Alors, voyez que je suis pour les moyens modernes. C'est extraordinaire. Le début, c'est un thème de Jackie McLean, que Coltrane et Ray Draper jouent aussi. Le début, c'est Hurtreger au piano, quelques accords, parfait. Barney est au premier plan, Barney Whelan. Et Barney a 20 ans, il est beau comme un dieu, il est de profil, saxophone ténor, il aligne un chorus, 32 mesures comme il faut, 4-4 avec René Hurtreger, le tout averti à inventer un paysage de lune, on voit la Terre, planète dans le ciel, et loin, mais tout groupé, tout serré, Miles Davis, superbement habillé, c'était un des hommes les plus élégants de son époque. Nous sommes le septembre 1957. Pierre Michelot, quelle merveille de bassiste, très connu aux États-Unis aussi. Tous les trois. Et là, au centre, pas un geste de trop, une batterie extraordinairement réduite, un sourire éclatant, Kenny Clarke, révolutionnaire du bebop avec Charlie Burt Parker et Dizzy Gillespie. Faut voir ça.
Toutes les informations sur Blue Bird, l'album de John Coltrane, l'inédit de John Coltrane qui sort demain, et le lien qui permet à ceux qui n'ont pas vu ce petit document exceptionnel, ce petit film tourné par Jean-Christophe Averty avec Miles Davis en 1957, sont bien sûr disponibles à la page de l'émission Le Réveil Culturel sur franceculture.fr. Un dernier mot, Francis Marmande.
En 1957, il y avait une seule chaîne à Bayonne, Basse-Pyrénées. On ne la recevait pas parce que les montagnes, ouais. Et c'était programmé le soir du 25 décembre 1957. Quelle époque!
Merci d'être passé ce matin, Francis Marmande.
Merci à vous, Toufik Akamil.